pas, la libre antenne revient dans un instant. Et chers amis, c'est le moment pour moi de vous dire aussi que chaque dimanche de 13h à 14h, vous pouvez retrouver Aymeric Pourbaix pour Enquête d'esprit avec ses invités. Aymeric aborde l'actualité d'un point de vue spirituel et philosophique. Enquête d'esprit, c'est chaque dimanche de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, la radio libre. Et au carillon d'Europe 1, il est 23h et on retrouve Maël Laurent pour le Flash Info. Bonsoir Maël.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous. Les menaces de Donald Trump d'imposer de nouvelles surtaxes douanières aux pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland sont inacceptables. Les propos ce soir d'Emmanuel Macron, des menaces jugées totalement erronées par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Un peu plus tôt, le président américain a annoncé une surtaxe de 10% applicable dès le 1er février à plusieurs pays européens dans la France, et ce, tant que le Groenland ne sera pas intégralement vendu aux États-Unis. La présidente de la Commission européenne se félicite de son côté de voir le commerce juste triompher des droits de douane. Réaction à l'accord de libre-échange officiellement signé aujourd'hui entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Ursula von der Leyen qui avait fait le déplacement jusqu'au Paraguay pour paraffer ce qui devient le plus grand accord commercial jamais signé par les Européens. Des propositions qui vont encore aggraver le déficit. La réaction de Marine Le Pen aujourd'hui au compromis proposé par Sébastien Lecornu sur le budget. La chef de file des députés RN à l'Assemblée, qui accuse aussi le PS, directement concerné par ce compromis, de n'être plus que la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie. Fin de citation. À noter que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, indique ce soir que son parti ne censurera pas le gouvernement à la condition que le financement de ces nouvelles mesures ne se fasse pas, je cite, sur le dos des Français. À l'étranger, rassemblement ce samedi dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon et Marseille notamment, en soutien au peuple iranien. Sur place, les manifestants ont été formellement menacés par le guide suprême iranien. Il indique vouloir briser le dos de ceux qu'il appelle des séditieux, tout en imputant les victimes du mouvement de contestation à Donald Trump. En bref, en France, 3 personnes mises en examen pour vol de câbles sur des chantiers de l'opérateur Orange, près de 200 tonnes au total dans les Yvelines et le Val d'Oise. Un an d'investigation qui a permis la saisie de plus de 4,5 millions d'euros d'avoirs criminels, dont un château situé, lui, dans l'Oise. Les individus ont été placés sous contrôle judiciaire. À l'étranger, 5 morts dans des avalanches en Autriche. 4 skieurs ont perdu la vie aujourd'hui après avoir été emportés par une coulée de neige près de Salzbourg. La 5e victime est une randonneuse à ski qui faisait elle aussi du hors-piste dans la même zone. Bilan terrible de ces avalanches qui s'ajoutent à cet Allemand qui a perdu la vie hier dans les Alpes suisses et ces 6 personnes qui ont péri dans des circonstances similaires côté français le week-end dernier. Et puis après la montagne, le ciel, le département de l'Hérault est en vigilance orange, pluie et inondation jusqu'à demain soir. Vigilance orange étendue à la Corse pour la journée de demain. Des risques de crues également pour l'Hérault et pour l'Aude pour le reste du week-end. Et enfin, on termine avec le Dakar 2026 qui vient de se terminer. 6e sacre pour le Qatari Nasser Al Attiyah, une course qui avait démarré au début du mois de janvier dans le désert d'Arabie Saoudite. 23h03 sur Europe 1, elle dans le désert et partout ailleurs, elle est plus qu'un guide, plus qu'une boussole. Valérie Darmon vous accompagne avec sa libre antenne autour du lien et de l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est que ça dure 2 heures encore.
Voilà, merci beaucoup Maël Laurent. J'ai eu peur quand vous avez parlé du désert. En tout cas, je ne prêche pas dans le désert. C'est déjà ça.
Quand on voit vos chiffres d'audience, non.
Voilà, merci. C'est grâce à nos auditeurs. Vraiment, un grand, grand merci à eux d'être si présents à nos côtés. On se retrouve à minuit pour les informations.
Voilà.
À tout à l'heure.
Et pas dans le désert.
Voilà, dans le studio.
Europe 1, 22h30, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Et si vous me rejoignez maintenant sur Europe 1 dans la libre antenne, un grand, grand merci à vous de partager votre samedi soir avec nous. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, numéro de notre standard non surtaxé. Vous pouvez nous laisser des SMS au 7 39 21, 75 centimes, plus coût du SMS, sans oublier de nous laisser votre numéro de téléphone si vous souhaitez qu'on le transmette à l'auditeur ou l'auditrice qu'on écoute en ce moment sur l'antenne. Ou si vous voulez qu'on vous rappelle également, bien sûr. Et puis, vous pouvez nous écrire à libreantenne@europe1.fr. Marie, je vous retrouve. On était en train d'évoquer ensemble, avant le flash de Maël, votre vie, 45 ans avec un homme marié. Et vous avez, donc sa femme décède des suites d'Alzheimer. Petit à petit, vous continuez d'être à ses côtés, de l'épauler jusqu'à son dernier souffle. Ses enfants, il en a trois, vous accueillent, comprennent. Donc moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui circule. Vous vous interrogiez sur, finalement, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie. Vous me disiez que vous étiez un peu perdu. Puis quand on vous écoute au fil de votre récit, on se rend compte que votre vie était quand même relativement structurée avec beaucoup d'amour et de l'amour qui reste encore aujourd'hui entre les enfants de ce monsieur et vous. Et puis surtout, on a beaucoup, beaucoup de SMS pour vous ce soir, Marie, au 739-21. Alors, on a Marie qui nous laisse son numéro de téléphone et qui vit à Aix-les-Bains et qui nous dit « Jolie ville d'eau, microclimat, nous avons le même âge avec Marie qui est à l'antenne et je suis en centre-ville et en bonne santé, je serais ravie de la rencontrer et d'échanger avec elle. » Ça, c'est Marie.
Même prénom. Merci, que vous. Marie.
Nous avons Patrick qui nous dit au 739-21, 75 centimes, donc plus qu'au du SMS. Je vous envoie mon numéro pour Marie si elle veut échanger pour passer du temps maintenant. Nous avons Kiki qui nous dit « Marie a trouvé son équilibre avec son amie et elle a maintenant le contact avec ses enfants et c'est très bien. » Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez ce magnifique message. Une jeune fille qui dit « Je sors du travail, j'entends votre émission. Comme elle me touche, cette dame, j'aurais rêvé de pouvoir faire tellement plus de choses avec ma mamie. Si elle souhaite échanger avec une personne qui pourrait être sa petite fille en termes d'âge, eh bien, j'en serais ravie. » Et elle vient de laisser son numéro de téléphone. En revanche, elle ne nous a pas donné son prénom, cette jeune fille. D'ailleurs, si elle veut nous appeler au 01 80 20 39 21, elle est la bienvenue aussi. Donc Nicolas va vous donner des contacts, Marie.
Oh, merci à tout le monde. Merci que les gens sont gentils, vraiment. Ça me touche beaucoup. C'est la première fois que j'appelle à une antenne.
Écoutez-moi,
je vous ai choisi parce que, justement, je vous ai pas choisi par hasard, Valérie.
Ah, voilà, vous voyez, il n'y a pas de hasard.
Donc,
on va vous donner, Nicolas va vous donner les contacts évidemment hors antenne et puis vous allez vous contacter les uns les autres et puis vous nous rappellerez pour nous dire ce qui se passe ensuite. Mais je vous incite vraiment à regarder avec beaucoup de douceur parce que moi je m'appuie que sur ce que vous nous livrez ce soir. Et quand vous en parlez, on sent pas de souffrance.
Ah bon, écoutez, vraiment vous m'aidez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Tant mieux, c'est un peu l'objectif de la libre antenne. Donc je vous invite à regarder avec douceur le déroulement de votre vie. Alors bien sûr qu'aujourd'hui vous êtes seule, mais encore une fois vous auriez été veuve, même si vous vous étiez installée avec cet homme. Donc de toute façon ça n'aurait rien changé. Donc vous auriez sans doute eu des liens avec ses enfants, ce que vous avez déjà aujourd'hui. Peut-être que vous auriez conservé quelques amis, peut-être. Ça c'est votre responsabilité, parce que vous auriez très bien pu aussi les conserver, même en étant avec cet homme, c'est que vous étiez...
Mais nous en avions des amis, mais bon, écoutez, c'est l'âge venant, plusieurs sont déjà décédés, voilà.
Donc vous en aviez, vous voyez, même les amitiés, elles étaient communes, c'est-à-dire que vous l'aviez présenté à votre cercle, et lui visiblement aussi, puisque vous aviez des amis communs. Donc en fait, finalement, la vie que vous avez aujourd'hui, mariage ou pas mariage, ça n'aurait rien changé, puisque vous seriez là où vous êtes aujourd'hui.
C'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait exact, ça me fait prendre conscience, c'est ça qui est bien, parce que toute seule, on tourne en rond, on dit oui un jour, non l'autre, mais au moins, vous m'éclairez vraiment, et je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et est-ce que vous, aujourd'hui, on peut dire que vous avez eu la chance de vivre un grand amour, Marie, aujourd'hui, ça, est-ce que vous pouvez le dire?
Ah oui, bien sûr, oui quand même.
Le plus grand des cadeaux. Parce que combien de personnes traversent cette vie sans vivre un grand amour?
Oui, bien sûr, j'écoute la libre antenne tous les soirs, effectivement, il y a des personnes qui ne trouvent pas, qui ne peuvent pas ou qui ne trouvent pas ou c'est le coup de chance ou je ne sais pas ou est-ce que je me suis contentée aussi de peu que d'autres personnes ne se seraient pas contentées. Ah,
sans doute, sans doute. Il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas accepté un homme marié, hein, qui auraient dit tu sais quoi, passe ton chemin, parce que moi je ne vais pas rester avec un homme marié, je ne suis pas un deuxième choix, etc. etc. Mais vous, quand vous nous le racontez, il passait du temps avec vous.
Ah oui. Et puis dès qu'il pouvait me téléphoner ou me faire un petit cadeau, j'ai jamais eu autant de fleurs de ma vie. Enfin, non, il était très très présent, entre guillemets. Même le week-end, il allait courir. Il habite à côté du Bois de Boulogne. Il allait courir et il me disait, viens donc me rejoindre pour courir, puisque sa femme, elle ne courait pas. Voilà. Dès qu'il pouvait,
parce que alors c'est souvent ce que disent les personnes qui sont mariées et qui sortent avec quelqu'un d'autre, c'est quand on peut. Mais lui, il a fait un peu plus que pouvoir, hein. Il a quand même, il vous a vu régulièrement.
Ah oui, il n'y a jamais eu de creux, même pas un creux, ou des gens qui se fâchent, qui se remettent. Non, jamais. D'abord, il l'aurait pas supporté, il le supportait pas. S'il me sentait un petit peu lointaine, il faisait tout pour accrocher les wagons.
Et donc vous avez été une femme aimée de cet homme, déjà, me semble-t-il. Et il a été attentionné avec vous, parce que c'est ça l'amour, en fait. C'est être attentionné avec l'autre, c'est prendre soin de l'autre, c'est lui demander comment il va, c'est connaître ses petites habitudes, c'est prendre soin.
Oui, ça je ne peux pas te plaindre, mais de la même manière que moi aussi j'étais quand même très à l'écoute. Il avait besoin de parler des soucis de travail, ou il me le disait à moi. Il ne le disait pas chez lui. Je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi à supporter chez lui, parce que sa fille me disait quand même qu'il se disputait beaucoup, alors que ce n'était pas un homme à se disputer. Vous voyez, c'est curieux. Les gens sont. D'une pièce.
Oui. Ah, ça, c'est certain, surtout en matière d'amour. Mais ce qui explique aussi le fait qu'il ait pu tomber amoureux d'une autre femme, c'est-à-dire que quand le couple est solide, vraiment solide, hein, qu'on s'accompagne pour construire, qu'on projette ensemble, qu'on traverse les épreuves, les obstacles, qu'on en fait des étapes, etc., etc., il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre.
Oui, à ce point-là, oui, ça peut être une aventure, mais c'est tout, ça s'arrête là.
Oui, mais déjà, s'il y a aventure, c'est que le couple, il est bancal, voilà, parce que sinon, on ne regarde pas ailleurs. Si on est bien avec sa compagne ou son compagnon, si on a hâte de rentrer le soir et qu'on est content d'entendre la clé dans la serrure, si on attend le temps ensemble pour parler, pour échanger, pour faire des choses ensemble, si on a hâte de l'entendre au téléphone, des choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre.
Et
ni pour quelqu'un d'autre pour partager quelque chose, ni même pour du désir pour quelqu'un d'autre, voyez ?
Oui, bien sûr.
Donc c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait déjà pas dans leur couple. Et d'ailleurs, sa fille, elle le confirme, puisqu'il y avait beaucoup de disputes. Alors lui, il était pris dans un conflit de loyauté, lui. Il avait promis à son père de ne jamais la quitter. On ne sait pas ce qui s'est joué dans leur histoire. On ne sait pas pourquoi ils se sont rencontrés. On ne sait pas si c'est les parents qui les ont présentés. On ne sait pas.
Je ne sais pas. Il parlait très peu de sa femme. D'ailleurs, il faisait pas, parce que j'avais une amie qui était avec un monsieur marié aussi. Elle disait qu'il arrêtait pas de dire du mal de sa femme. Lui, jamais. Non, ça n'a pas. Il en parlait pas. Voilà.
Il faisait bien. Il cloisonnait. Voilà. C'est-à-dire qu'il protégeait son épouse. Il vous protégeait aussi vous. Voilà.
Ah oui.
Donc, et visiblement, il ne s'est pas trop mal débrouillé, puisque ces deux histoires ont duré jusqu'à la fin de ses jours.
Oui.
Donc, finalement, pourquoi pas ? Il n'y a pas un seul modèle.
Oui, comme vous dites, c'est vrai.
Qui sommes-nous pour juger ?
Je sais bien. Je sais bien que beaucoup de femmes ne l'accepteraient pas, et tant mieux, parce que c'est quand même mieux certainement d'avoir un foyer avec un bon mari, des enfants, une belle vie de couple, quoi. Mais il faut que ça dure, c'est ça. C'est la durée qui est difficile. D'après ce que j'entends maintenant, je ne sais pas.
Je crois que c'est la frustration qui est difficile. C'est-à-dire que pour la maîtresse ou pour l'amant, dont la compagne est mariée par exemple, ou dont l'homme est marié, ce qui est difficile, c'est l'attente, se mettre en attente, être frustré de ne pas vivre du quotidien ou de ne pas avoir de projet de vie. Mais vous, il vous les a offerts, donc finalement il n'y avait même pas cette frustration. Et quand vous dites non, la durée, vous parlez des couples mariés qui s'inscrivent dans la durée.
Mais oui, parce que j'entends beaucoup. Oui, c'est ça. Ça me fait de la peine parce que je me dis, il pourrait être si heureux. Et puis, quelquefois, c'est pour des pacotilles que ça ne va plus. À mon sens.
Oui, mais encore une fois, on choisit ce qu'on veut vivre, Marie. Si on a décidé de grandir ensemble, de s'élever ensemble. Au sens de l'élévation avec son conjoint ou sa conjointe, et ben on fait le boulot. Voilà, oui, on fait le boulot. C'est un projet de vie, le couple.
C'est vrai. Que Dieu vous entende et que beaucoup de couples entendent, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de séparation et ça me fait de la peine, quoi. C'est vrai. C'est difficile, la vie est plus difficile maintenant aussi.
C'est pour ça qu'il vaut mieux être deux, c'est quand même plus facile, hein. L'homme n'est pas fait pour être seul. Quand on est deux qu'on s'entend, et qu'on souhaite s'entendre, et qu'on souhaite se comprendre, mais tout ça c'est du travail, eh bien évidemment qu'on affronte la vie beaucoup mieux.
Oui, évidemment, on est plus solide, bien sûr.
Voilà, quand on est deux, on a une épaule. Et à tour de rôle, l'épaule, c'est pas toujours dans le même sens non plus.
Oui, c'est tout à fait ça, oui. Évidemment, moi j'ai beau jeu de dire ça, hein, mais il faut faire. De toute façon, même dans mon cas, il fallait faire des efforts à deux parce que moi. J'ai quand même laissé j'avais un travail mais qui me prenait trop, mais pour lui j'ai quand même levé le pied, j'ai fait de l'hôtellerie pour avoir des jours en semaine, enfin j'ai fait beaucoup de choses aussi, mais tous les deux on a fait quand même beaucoup de choses.
Vous avez, parce que vous teniez l'un à l'autre, et d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours il vous l'a dit, qu'est-ce qu'on est bien tous les deux.
Ah oui, ça, c'est il pouvait plus beaucoup parler puisque avec son Parkinson, c'est le pauvre, c'était plus du tout. Mais ça, il me le disait. Oui, ça, il arrivait à me le dire et ça me touchait beaucoup d'ailleurs. Mmh. Ça me touchait beaucoup. Oui.
Comme quoi, la durée n'a rien à voir là-dedans, parce que quand on est prêt à s'engager, c'est un engagement, la vie de couple. Ça peut durer, hein. Et parfois, vous savez, on s'aime de la même manière, voire mieux d'ailleurs, après 45 ans, que les premières années, hein.
Parce que ça se construit.
Passer le cap de la lune de miel et des phéromones et compagnie, parce que tout ça n'est qu'une histoire de physiologie. Oui. Ensuite, ça se construit. Et ça s'entretient.
C'est très important ce que vous dites. Effectivement, et il faut avoir un peu d'imagination aussi.
Oui, d'ailleurs.
Pour pas que les jours se ressemblent trop, enfin, c'est tout un ensemble.
Et oui, et l'amour, et en plus, regardez comme c'est bien fait. Parce que l'amour rend imaginatif, l'amour rend créatif.
Oui, c'est vrai. Je me disais quelquefois, je vais essayer de m'habiller autrement ou pour pas être la même femme vraiment, parce que voilà, et ça passait par un tas d'images. Oui, je faisais des efforts à ce moment-là, et quand je sentais qu'une tenue lui plaisait pas, je la remettais pas, ou des choses comme ça, enfin des choses un petit peu bébête peut-être parfois,
c'est les petites choses qui font le quotidien aussi. Préparer un bon plat par exemple, savoir ce que la personne qu'on aime et lui préparer un bon plat par exemple, ça c'est une attention qui compte.
Oui Oui, oui.
Vous savez, on est dans une société qui a perdu certains sens. Je vous donne un exemple. Un monsieur, par exemple, qui regarde son feuilleton régulièrement à la télé ou son film et qui est très attaché au personnage et qui, à un moment donné, il y a l'héroïne, par exemple, je sais pas moi, qui va mourir. Et donc, il rentre dans la cuisine, il voit sa femme qui est en train de faire la vaisselle, qui est un peu seule dans la cuisine, qui va mal, qui a les larmes aux yeux, et lui dit, tu te rends compte qu'elle va mourir quand même. Et là, il est très affecté par la suite de son feuilleton où l'héroïne va mourir. Mais au lieu de regarder l'héroïne qui va mourir alors qu'elle va très bien et qu'elle fait son footing à Los Angeles, il ferait mieux de regarder sa femme qui a les larmes aux yeux.
Oh, c'est génial ce que vous dites. Ah oui, oui.
Donc vous voyez, c'est voilà.
Ah mais oui.
Il faut regarder les gens avec lesquels on vit. Il faut les regarder, il faut les voir, il faut entendre.
Ah oui.
C'est ça l'amour.
Eh oui. Oh, vous êtes géniale, Valérie, vraiment.
Merci, c'est gentil.
C'est très profond ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, ça me parle beaucoup. C'est vrai que c'est très important tout ça. C'est très important.
Donc je crois que je pense que. Et vous pouvez réécouter notre entretien sur Europe1.fr, bien sûr.
Je vais le faire.
Voilà, vraiment, vous avez vécu beaucoup de douceur, beaucoup d'amour jusqu'au bout, avec une telle reconnaissance même à la fin. Gardez le contact avec ses enfants, nourrissez ce contact. Contactez les personnes tellement gentilles qui ont laissé leur numéro de téléphone pour vous.
Ah oui, bien sûr.
Juste peut-être voyez quelqu'un quelques séances à peine, juste pour savoir un peu vers quoi vous voulez vous diriger. Voilà, si vous voulez quitter Paris. Parce que finalement, vous êtes totalement libre maintenant, Marie.
Mais oui, mais vous savez, il y a le salon de la médecine douce, là, à la porte de Versailles. J'habite juste à côté. Et je crois qu'il y a des... Justement, c'est le thème un peu du deuil, de ces choses-là. Et il y a des psychologues. Donc, peut-être ça sera le moment, comme ça, de voir. Et puis, comme ça, je vois la personne, en plus.
Oui, faites confiance
si
à la vie.
Ou pas.
Faites confiance à la vie. Et faites-vous confiance.
Bien d'accord.
Et faites-vous confiance.
Il va falloir que je le fasse. Oui.
Et donnez-nous de vos nouvelles.
Ben merci infiniment, ainsi qu'aux personnes qui ont laissé gentiment leur téléphone. Je les rappellerai, je les recontacterai avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci Marie, prenez soin de vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
La libre antenne d'Europe 1, Valérie Darmon.
needs all the work to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Johnny's always running around. Running around.
Johnny and Mary de Robert Palmer ce soir dans votre libre antenne sur Europe 1.
La libre antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Et Dalida aurait eu 93 ans aujourd'hui. Elle est née le 17 janvier 1933. Europe 1 lui rend hommage à travers le podcast Destin Extraordinaire. Découvrez le parcours hors du commun d'une légende de la chanson française racontée par Pascal Praud et Orlando, le frère et agent de la star, et illustrée par les archives exceptionnelles d'Europe 1. Le podcast Destin Extraordinaire Dalida, raconté par Pascal Praud, à écouter donc dès maintenant sur le site et sur l'application Europe 1. Et je l'ai écouté, je peux vous dire que vraiment, il est extraordinaire, il porte bien son nom. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour nous parler alors, de quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'est Nicolas qui m'en a parlé tout à l'heure et on a longuement débattu sur ce sujet, Charlotte. L'orthopédagogie. Mais qu'est-ce que c'est oui. que ça ? Dites-moi tout.
En fait, c'est une personne qui est là pour nous aider à apprendre, nous apprendre à apprendre.
Ah oui, alors vous apprendre à apprendre. D'accord, vous avez quel âge, Charlotte ?
15 ans.
15 ans, ok. Alors vous mais comment on appelle un orthopédagogue ? Comment ça se trouve, des gens qui vous apprennent à apprendre ?
Je sais que moi, c'était mon orthophoniste qui m'avait... Parce que je suis dyslexique, et du coup, c'était mon orthophoniste qui m'avait... mis sur la voie, mais en fait, donc cette dame m'a fait un sorte de petit, enfin des questions où je devais répondre franchement. Enfin, elle est tenue au secret professionnel, donc voilà. Et du coup, et ben en fait, elle m'a dit qu'elle allait m'apprendre à apprendre, donc me donner des méthodes pour réviser mes cours. Mais pas juste les relire le soir, vraiment pour les assimiler et pour pouvoir mieux comprendre et apprendre.
Alors, depuis quand vous utilisez ces techniques d'apprentissage ?
J'ai eu 10 séances avec elle et du coup j'ai terminé fin janvier de l'année dernière et ça fait du coup un an. Et ça fonctionne plutôt bien.
Ah oui, bah oui, bah j'imagine si vous prenez la peine ce soir. Alors écoutez, je crois que vous êtes notre plus jeune auditrice à avoir appelé la libre antenne, c'est pour dire. Donc si vous prenez la peine d'en parler ce soir sur l'antenne d'Europe 1, c'est que vous voulez donner des trucs et des astuces aux parents qui sont peut-être démunis, parce que je pense que vos parents, ils sont passés par là aussi, Charlotte, non ? Ils ont dû être un peu...
Oui, oui.
Non, c'est ça. Ils ont dû chercher des solutions, j'imagine.
Oui, oui, beaucoup.
Parce que le parcours scolaire, ça a dû être compliqué, non ? À quel moment vous avez senti que c'était compliqué, quand vous avez commencé à apprendre à lire, c'est ça ?
En CP, du coup, ma mère, elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait, parce que du coup, elle sentait bien qu'il y avait un truc. Mais ma maîtresse de CP m'a dit que non. Et c'est qu'au CE2, où j'ai commencé du coup à faire de l'orthophonie, et qu'en fait, je suis allée dans un hôpital où on m'a fait passer une série de tests et du coup j'ai pu savoir que j'étais dyslexique, mais cette année-là du coup j'ai pas trop eu d'aménagement et puis en CM1 du coup il y a eu le Covid, donc ça a un petit peu coupé l'année.
Ouais, ça a réglé le problème en même temps, hein. Vous n'alliez pas en cours, vous n'alliez pas à l'école.
Oui. Mais c'est que en sixième que j'ai, en fait, en CM2, j'ai fait de l'ergothérapie pour apprendre à taper sur un clavier pour pouvoir prendre des notes avec un ordinateur, parce que ma dyslexie entraînait de la dysgraphie.
Ah voilà, j'allais vous poser la question, parce que souvent les dys, ils vont de pair avec d'autres choses, voire plusieurs dys. Donc oui. Alors.
Et du coup, en sixième, ben, j'ai commencé à prendre des notes avec mon ordinateur. Et du coup, ben, j'ai pu prendre les cours normalement. Et du coup, j'avais un PAP à côté. Et du coup, là, on a vraiment pris le problème.
Le taureau par les cornes.
Voilà, c'est ça. Et on a réussi à le résoudre.
Avec l'orthophoniste et avec l'orthopédagogue.
L'orthopédagogue, c'était en troisième.
Alors, qu'est-ce qu'en sixième et en cinquième, il se passe quoi pour vous dans votre parcours scolaire? Parce que souvent, ça. Alors aujourd'hui, on en parle, des dix, parce que vous n'êtes pas la seule. Combien il y avait d'enfants qui étaient atteints soit de troubles de l'attention, soit de l'hyperactivité, soit des dix dans votre classe, par exemple?
Dans ma classe, pas beaucoup, mais je sais qu'aujourd'hui, dans ma classe de seconde, du coup, parce que je suis en seconde, il y en a plus. Mais je sais qu'il y avait une classe Ulysse, mais c'était pour des troubles encore plus
lourds,
plus prenants. Mmh. Et du coup, je sais qu'ils avaient une classe Ulysse, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Je pense qu'il y avait beaucoup d'hyperactivité.
Mmh.
Et de TDAH, oui.
Oui, c'est ça. Et vous, est-ce que ça a impacté votre rapport à la scolarité, le fait d'être comme ça, déjà multidis, parce qu'il y en a deux. Donc, est-ce que ça a impacté votre rapport à l'apprentissage, votre rapport à l'école? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes découragé?
Oui, surtout l'année dernière, du coup, en troisième. En fait, j'ai été séparée de tous mes amis et tout. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée seule dans une classe où j'étais la seule à avoir un ordinateur, avec des profs hyper stressants parce qu'il y avait le brevet à la fin. Et c'était hyper... En fait, les profs, ils mettent tellement de pression. Et en fait, à un moment, je me suis dit, stop, en fait, j'arrête de travailler. Je fais plus rien. Et du coup, les notes ont suivi.
Ah oui, donc ça a
été... Et du coup, c'est là que je suis allée... voir une orthopédagogue.
Ah oui. Ah oui, parce que là, effectivement, vous avez jeté l'éponge. Vous n'avez pas lutté, en fait.
J'ai lutté pendant 4 ans.
Oui, c'est ça. Au regard de votre parcours général, vous avez lutté. Mais l'année de la troisième, là, vous vous êtes dit, c'est bon, là, maintenant, j'en ai ras-le-bol, quoi, en fait. C'était l'effet cumul, c'est ça. Et vos parents, ils ont essayé de parler un peu avec les profs ou pas?
Ils ont pris des rendez-vous du coup avec ma CPE, mais elle nous a dit que en fait vu les notes que j'avais, parce qu'en fait c'était un collège lycée, vu les notes que j'avais, ils nous ont dit que j'étais virée pour l'année prochaine, donc je n'allais pas dans ce lycée. Donc là il y a eu un problème en plus. Et du coup, ma maman a surtout parlé aux profs et tout, mais les profs, en fait, ils ont dit il faut qu'elle commence à travailler et tout. Après, je faisais mes devoirs et tout, mais je ne travaillais pas. En fait, j'avais que des mauvaises notes. Et du coup, en fait, ça n'allait pas du tout, quoi. Et mes parents ne savaient pas quoi faire. Du coup, voilà.
Alors, dites-nous maintenant comment vous vous en êtes sortie, Charlotte. Parce que si vous êtes en seconde, c'est que vous avez eu votre brevet et vous n'avez pas redoublé.
Et oui, c'est
voilà,
ça.
Donc c'est
pas loin de redoubler.
Voilà, ça veut dire que la méthode, elle marche. Et moi, je milite assez pour qu'il y ait des cours d'ailleurs de méthodologie dans les écoles. Donc, dites-nous.
C'est primordial.
Dites-nous, Charlotte, par exemple, donnez-nous des trucs pour les parents qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, qui ont du mal à faire travailler leurs enfants, pas à faire travailler, parce que vous travaillez, mais à faire apprendre à leurs enfants.
Oui, parce que j'ai remarqué que en fait, on n'apprend pas à apprendre. Et du coup, en fait, cette dame m'a expliqué que quand on rentre le soir, nos parents nous disent, et nos profs aussi, ils nous disent, relisez votre cours. Oui, on relit notre cours et il se passe rien. Certes, on le relit, mais on le comprend pas, on l'assimile pas et on se dit, c'est bon, j'ai compris. Mais pas du tout. J'ai découvert qu'en fait, quand on relit notre cours, ça sert à rien. Ce ce qu'il faut faire, enfin moi, ce qui a marché pour moi. Du coup, en fait, on m'a dit de rentrer. Donc, quand je rentre chez moi, je fais une pause. Parce qu'en fait, reprendre direct après les courses, ce n'est pas possible. Du coup, fais une pause. Et après, en fait, mets tout ce que tu penses sur ton... tout ce que tu as retenu sur un cours de la journée. Par exemple, l'histoire géo. Tu mets les dates que tu as retenues, tout ce que tu penses avoir retenu de ton cours. Et après, tu vois ce que tu as mis, tu relis ton cours et tu te dis « Ah oui, il n'y a pas grand-chose. » Ce qui porte à être beaucoup plus attentif en cours. Parce que du coup, faut se dire, en fait, tu as un objectif de mettre le plus de choses sur ta feuille. Bon, après, il faut se fixer des objectifs parce que sinon... c'est compliqué.
Et par exemple, l'objectif, c'est quoi ? C'est de remplir une demi-page, par exemple ?
Oui, moi, c'était mon objectif. Où, à un moment, au départ, c'était de mettre au moins 10 mots. En plus, plus ça avançait, plus il fallait que je mette 2 mots. Et voilà. Et en fait, on se dit... En fait, là, on est face à une page. On n'est pas face à un prof. Voilà. Du coup, en fait, on est face à nous-mêmes. Et en fait, on se dit, bah, on ne peut pas se mentir. Donc, en fait, juste... on essaye de faire au mieux. Et du coup, et ben en fait, j'ai réussi à mettre de plus en plus de mots. Aujourd'hui, je sais que je ne fais plus cet passage parce que je fais directement le suivant, qui est, en fait, il faut relire son cours et après, je fais une mini carte mentale où je mets tout dans un ordre. Et du coup, en fait, quand arrive le contrôle, eh ben, je reprends toutes les cartes mentales.
Oui, et vous retranscrivez.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Alors, par exemple, de carte mentale, donnez-nous un exemple pour les gens qui ne connaissent pas la carte mentale, qui marche extrêmement bien, hein, d'ailleurs.
Bah, par exemple, on a par exemple, la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918. Eh ben, on peut mettre 1914, ce qui s'est passé... Donc, les assassinats, je ne me souviens plus, désolée.
À Sarajevo. Mais,
oui, Sarajevo, ouais. C'est ça, désolée. Et donc, tout ce qui s'est passé, et en fait, et bien, juste des petits mots. En fait, des mots, parce que sinon, en fait, c'est trop compliqué de se repérer. Si on commence à mettre des définitions hyper longues, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une carte mentale où il y avait, du coup, des mots. Et après... une autre feuille où je mettais les définitions parce que bon, il faut prendre les définitions. Mais du coup, voilà.
Alors, donc, premier exercice, on met les mots qu'on a retenus sur les cours de la journée. Deuxième exercice, on crée la carte mentale. Et ensuite ?
Et ensuite, en fait, quand on fait ça chaque jour, du coup, on essaie de faire ça avec tous les cours parce que sinon, après,
avec tous les cours. Avec tous les cours. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Oui, mais en même temps, il faut les apprendre. Donc oui, c'est logique.
Oui. Mais j'ai commencé par 2-3 cours les plus compliqués. Parce que je me suis dit que... En fait, j'ai commencé avec un cours simple. Donc pour moi, c'était le français. Et un cours plus compliqué, l'anglais. Et donc du coup, je prenais le français. Et en fait, ça m'entraînait sur l'anglais aussi. Parce que du coup, je voyais comment faire avec une matière simple. Ce qui m'entraînait à faire une matière plus compliquée. Et après, j'ai ajouté les matières et voilà. Et j'ai réussi à peu près tout faire. Mais ça prend du temps, mais ça paye en vrai.
Donc, vous avez fait ces deux exercices. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faut savoir ? Par exemple, rajouter, parce qu'on a tous des canaux d'apprentissage, davantage, par exemple, en images, on est plus visuel ou on est plus auditif. Est-ce que rajouter, je sais pas moi, des dessins à côté de ce qu'on doit apprendre ou une image, est-ce que ça peut aider ?
Oui, tout à fait. Je sais que du coup pour l'anglais, parce que l'anglais c'est vraiment une matière, je n'y arrive pas, mais j'avance de jour en jour. Mais pour l'anglais, par exemple, tout ce qui est vocabulaire et tout, moi je sais que je fais des dessins à côté. J'essaye de dessiner un petit peu
tout ce qui est en lien avec ce que vous apprenez.
Voilà, c'est ça. Et du coup, et ben en fait, ça m'aide beaucoup à du coup
à retenir,
assimiler, ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a des parce que ça ressemble aussi à toutes les techniques un peu cognitives. Hein. Est-ce que vous faites par exemple, des apprentissages pour apprendre, évidemment, en marchant dans l'espace, oui. des repères spatiaux.
Oui, mais ça, je l'ai développé toute seule. Mais oui, je sais que moi, déjà, d'habitude, quand j'appelle, je marche. Mais pour plus me concentrer, parce que oh oui, je suis TDAH aussi. Et du coup, pour plus me concentrer, je reste fixe. Mais oui, marcher, par exemple, pour apprendre une poésie, moi, je sais que je marchais avant. J'en apprends plus, là. Ou des textes, des monologues, etc. Mais oui, marcher pour apprendre des trucs par cœur, c'est vraiment ce qui marche le mieux.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc que vous a appris votre orthopédagogue, Charlotte?
Elle m'a appris un cycle, c'est qu'en fait, il faut être attentif, ensuite restaurer, donc sortir le cours, ce que je fais le soir, du coup. Ensuite, le mémoriser, donc ce que je fais souvent le week-end, et ensuite le restituer, du coup, lors de l'évaluation. Mais ça, en fait, il faut le faire, vu qu'on le fait à tous les cours, et ça fait à peu près... tout, genre en fait, il n'y a pas grand chose d'autre qu'elle m'a appris parce qu'elle a vu directement que c'était ça qui me correspondait. Mais elle me dit que ce n'est pas les seules méthodes.
Les seules méthodes, d'accord. Elle a d'autres méthodes à son actif au cas où, c'est ça? Avec
oui,
vous, ça marche
oui,
comme
oui.
ça. Mais est-ce que, par exemple, l'usage des couleurs, ça peut aider?
Oui, je sais que moi, du coup... je suis dyslexique et du coup j'ai beaucoup de mal à lire et je sais que j'utilisais des couleurs, en fait une couleur par ligne, genre une ligne sur deux, changer de couleur pour me repérer et elle m'a dit que ça en fait ça pouvait aider aussi par exemple mettre une couleur pour les définitions parce qu'en fait quand on arrive devant une définition en fait moi pendant l'évaluation je la surligne la définition, et du coup, en fait, je me rappelle dans mon cours, ça, c'était surligné en telle couleur, donc il faut que je le restitue. Je restitue ce qu'il y avait de cette couleur.
Ah oui, d'accord, donc c'est un repère, en fait.
Oui. Oui,
c'est un repère. Vous vous destinez à faire quoi comme étude, Charlotte?
Je suis dans un lycée où c'est général et technologique et du coup j'ai choisi d'aller dans une filière technologique l'année prochaine en ST2S, c'est santé sociale et du coup pour devenir ostéopathe.
Ah oui, bien, belle
oui.
carrière, hein, vous aurez du travail.
Oui.
Avec tous ces gens stressés qui vont avoir besoin d'ostéopathie. C'est parfait. Et puis en plus, ce sera surtout le toucher, le ressenti aussi. Bon, il y aura l'apprentissage, évidemment, mais il n'y a pas que ça.
Oui, tout à fait. Et je sais que, par exemple, moi, je vois une ostéopathe de temps en temps parce que j'ai des problèmes aux genoux. Et en fait, je sais que je discute beaucoup avec elle. Et du coup, en fait, ça fait un... On relâche la pression et tout. Et du coup, moi, je veux être cette personne pour les,
aider les
patients.
Aider les patients à être moins sous pression.
Ouais, oui, voilà, c'est ça.
Vous
ouais.
connaissez bien la pression, vous, déjà, en dépit de votre jeune âge de 15 ans.
Oui.
Donc, combien ça coûte une séance d'orthopédagogie?
Je ne sais pas la séance, mais ça coûte très cher. Je sais que j'ai fait 10 séances et je pense que c'était aux alentours de 1200 euros. Donc, ça a un coût, mais... Ouais.
Ça vaut le coup, c'est le cas de le dire.
Oui. oui.
Hein, ça a un coût, mais ça vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, oui. vous êtes en seconde, vous n'avez pas redoublé, du coup, vous n'avez jamais redoublé.
Non. Mais du coup, mon année troisième, elle n'était pas terminée fin janvier. Et du coup, il s'est passé plein d'autres choses.
C'est-à-dire
qui n'ont pas arrangé les choses.
Oui.
En fait, du coup, j'ai toutes mes amies qui sont parties du jour au lendemain. Voilà.
Mais elles sont parties où?
Qui sont parties, qui n'ont plus voulu me parler. Voilà.
Ah bon? Sans explication.
Ouais. J'ai ma meilleure amie, du coup, qui le jour où j'ai su que je n'étais pas acceptée dans le lycée où je voulais aller, m'a dit j'en peux plus de notre relation amicale et je vais plus te parler, voilà.
Waouh.
Donc c'était un point en plus. En fait, cette année a été horrible.
Oui, bah vous pouvez que remonter à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du moral, au niveau des notes, et puis peut-être vous ouvrir, parce que vous savez, la nature a hors du vide. Donc si ça se vide, passez évidemment le deuil et le chagrin, parce que ça crée du chagrin quand même, hein, des amis, surtout à votre âge. C'est important l'amitié, hein, c'est même assez fusionnel. Donc là, vous pouvez le vivre comme une trahison, comme une déception bien sûr. Bon, surtout si en plus elle tourne les talons sans vraie raison, elle n'explique pas, parce que j'en peux plus de notre relation, ça ne veut rien dire.
Oui, vraiment. Et pour ne pas en finir là, parce que sinon ce serait trop beau, il y a mon grand-père qui est décédé 2 mois plus tard d'une leucémie.
Oui.
Du coup, ça fait un choc en plus. Voilà.
Ah oui, ça fait beaucoup de choc émotionnel. Mais vous avez été voir quand même, vos parents vous ont quand même emmené voir un pédopsie, parce qu'à votre âge, c'est plus le pédopsie, mais un psy quand même pour parler de tout ça.
Ah non, non. Non, non, parce que on va dire qu'ils sont pas trop dans la psychologie. Ils sont là en mode. Ils sont super et tout, mais ils sont là. En fait, tout le monde vit ça dans sa vie, et du coup, c'est normal que tu passes par là. Mais non. Non, enfin, c'est normal que je passe par là, mais ça fait quand même très mal.
Ben oui, vous étiez proche de votre grand-père ?
Oui. Et d'autant plus que du même côté, du côté paternel, je sais que du coup, ma grand-mère, 2 ans plus tôt, il y a 2 ans, a fait un AVC. Et elle n'est pas morte du tout, mais voilà. Mais,
elle a des séquelles ? Elle a des séquelles ?
Oui, énormément.
Donc elle est placée ?
Non, elle vit chez elle, mais elle a des trous de mémoire. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer, par exemple, le soir de parler longtemps au téléphone elle a beaucoup de fatigabilité.
Oui.
Et du coup voilà, donc c'est un petit peu dur.
Bah oui, mais je vous comprends, là ça fait beaucoup, hein, un grand-père qui s'en va dont vous êtes proche, votre grand-mère qui a fait un AVC, vos amis qui vous tournent le dos, ça fait beaucoup pour une seule personne tout ça, Charlotte. Plus le lycée, donc c'est un changement d'établissement. Ils mettent la pression très tôt sur les parcours, avec Parcoursup aussi. Ça fait beaucoup. Mais vous êtes fait des nouveaux amis ou pas ?
Oui, tout à fait. J'ai fait une belle rencontre. C'est une fille, en fait. Elle est du coup dans mon nouveau lycée parce que je connaissais personne. Et du coup, bon, dédicace à Lara, parce que vraiment, c'est mon petit cœur. Et du coup, oui, on est très similaires partout, en fait. On a les mêmes opinions, on est pareil.
Bon, ça aide, hein, pour se comprendre.
Oui.
Ça aide.
Et en fait, du coup, vu que j'avais pas de psychologue ni rien, j'ai écrit un livre. Sur ma vie,
oui.
Un petit livre du coup.
Oui.
Et du coup, en fait, j'ai écrit ce que je ressentais et voilà. Et du coup, je suis très fière parce que je sais que tout le monde n'arrive pas à faire ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment un moyen de décompresser. C'est comme un journal intime, mais que j'ai vraiment poussé. Loin.
Mais c'est bien, comment il s'appelle ce livre ? C'est quoi son titre ?
Ça s'appelle Pas parfaite et alors.
Pas parfaite et alors. Ah mais j'adore ce titre. C'est magnifique, Pas parfaite et alors. Ça dédramatise tout. Et d'ailleurs, personne n'est parfait, donc ça tombe très bien. Vous l'avez fait lire à vos parents ?
Je leur ai lu, mais ils n'ont pas trop eu de réaction.
Ah bon ?
Ouais.
Ils n'ont pas réagi ?
Ils ont dit non. Je leur ai lu au téléphone, je pense que ça aide pas. Non, ils n'ont pas trop eu de réaction. En fait, ils étaient là en mode d'accord. Parce que je les ai un petit peu taillés dans le livre, je crois. Mais
C'était peut-être un moyen pour vous de libérer la parole, l'habitude, ouais, peut-être oui, de leur dire des choses que vous n'osez pas leur dire déjà en face, parce que parfois c'est compliqué. Oui. Hein. C'est comme si vous affrontiez vos parents, en tout cas l'autorité parentale. Moi, je trouve ça très courageux de votre part d'abord de leur lire, et puis de l'avoir écrit surtout. Et alors, qu'est-ce que vous allez en faire de ce petit livre? Vous allez l'éditer à compte d'auteur et le diffuser sur Amazon?
Je ne sais pas encore, parce que je trouve ça très personnel. Et du coup, pour l'instant, je pense que je vais continuer de l'écrire, comme j'ai déjà commencé à écrire du coup pour mon année de seconde. Mais j'aimerais bien terminer genre jusqu'à mes 18 ans. Et après, voir quand j'aurai plus de maturité et tout.
Oui, puis vous verrez aussi, c'est un moyen aussi de voir l'évolution en vous. Entre le moment où vous écrivez aujourd'hui et puis quand vous écrirez dans 3 ans, vous verrez comment vous allez évoluer en termes de maturité. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi hein, comme exercice.
Ouais.
Donc, ben, chapeau quand même, vous n'êtes pas... hein, vous êtes quelqu'un quand même, Charlotte, dites-moi. Déjà, prendre votre courage à deux mains pour appeler la radio ce soir. Comment ça s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez eu envie de donner des solutions peut-être à des jeunes hein, qui sont un peu perdus avec les études.
Des jeunes, du coup, de leur donner des solutions et surtout de l'espoir, genre de se dire que de toute façon, ça peut s'arranger. Il y a de toute façon une solution. Comme je dis dans mon livre, ça c'est une belle phrase, je trouve. C'est pas parce qu'on tombe 100 fois qu'on est faible. Le principal, c'est d'être assez courageuse pour se relever 101 fois. Et qu'en fait, même si du coup, on tombe, on fait que tomber, à un moment, c'est sûr qu'on peut se relever parce qu'on ne peut pas toucher autant le fond.
Exactement. Bah, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut pas aller en dessous du fond, hein, de toute façon. Donc, et puis c'est ça aussi. Alors parfois, c'est plus douloureux que d'autres, hein, surtout quand on est jeune. Mais c'est ça l'apprentissage de la vie. Il n'y a pas que l'apprentissage des études, il y a aussi l'apprentissage de la vie. Et là, c'est vrai que pour vous, l'année dernière, elle a frappé fort.
Oui.
C'est vrai. Mais vous allez en sortir plus solide. Et on le voit déjà dans vos mots, combien vous êtes solide. On le voit.
Oui.
Je crois qu'il y a des grands-parents qui peuvent être fiers de vous. Hein.
Oui, je sais que ma grand-mère est très fière de moi. Ma grand-mère du côté maternel.
Vous êtes proche d'elle?
Oui.
Ah, on sent dans la voix. Oui. Ça fait du bien entendre ça. Je pense que les auditrices de la Libre Antenne et les auditeurs de la Libre Antenne, qui sont souvent des grands-parents et qui entendent comme ça une petite fille qui dit à ce point « Oui, ça fait tellement du bien à entendre. Ça réchauffe le cœur. » Vous passez du temps avec elle?
Pendant les vacances, oui. Après, en dehors, du coup, elle ne vit pas du tout à côté de Paris. Du coup, pas trop, mais oui.
Et vous l'appelez?
Oui.
Ben, c'est magnifique. Regardez l'antenne, comment elle se construit ce soir. Il n'y a pas de hasard. On a eu Marie juste avant avec une autre jeune fille qui dit « J'aurais aimé faire tellement de choses avec ma mamie, je n'en ai pas assez fait. Voilà mon numéro pour que je contacte Marie. » Et vous, juste après, Charlotte, et l'émission, elle se construit complètement par hasard. Évidemment, moi, je ne crois pas au hasard. Et vous rendez hommage aussi à vos grands-parents ce soir. C'est joli, non?
Oui, tout à fait.
En tout cas, un grand merci, Charlotte, d'avoir choisi Europe 1, de nous avoir choisi pour nous parler de cette orthopédagogie. Hein, je redis bien le terme pour les parents qui nous écoutent et qui sont perdus, complètement démunis face à l'enseignement tel qu'il est délivré encore aujourd'hui dans les collèges, les lycées, les écoles. Donc ça, c'est bon à savoir quand même, l'orthopédagogie. Moi, je retiens bien les trucs que vous nous avez donnés parce que je suis en plein apprentissage en ce moment et je galère, on peut le dire. Donc je vais appliquer ce que vous nous avez enseigné ce soir, Charlotte. Et puis évidemment, je vous souhaite le meilleur. Et je vous propose une chose, quand vous aurez un petit peu avancé sur votre ouvrage, et si vous avez envie de nous en parler, ben rappelez-nous.
Oui, avec plaisir.
Avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous, ce que vous faites déjà à merveille.
Merci.
À bientôt, Charlotte. Au revoir.
Au revoir.
ça sert à ça d'écrire une chanson. Pour que le monde accorde ses violons, ça sert à ça d'écrire une chanson. Pour capter l'émotion, yeah, yeah. Ça sert à ça, ces putains de musique, pour faire vibrer les féminines magiques et faire exister cet amour magnifique juste entre elle et toi, yeah. Ça tient souvent sur trois lignes de texto, oh, sur ton iPhone, au milieu des photos. Tu sais, c'est un partage, un peu comme un cadeau. Regarde, tout le monde danse dans la folie de ce tempo. Le monde s'embrasse, oh ma main, qu'est-ce que c'est beau. Ça sert à ça d'écrire une chanson, pour faire s'aimer les filles et les garçons. Ça sert à ça d'écrire une chanson, pour capter l'émotion, yeah, yeah. Ça sert à ça, ces petites notes de musique, pour faire vibrer ces féminines magiques, faire exister cet amour magnifique juste entre vous.
Montagnier au piano et à la chanson, bien sûr. Ça sert à ça dans votre libre antenne sur Europe 1.
Vous aussi, laissez vos messages à Valérie Darmon
en commençant par le mot nuit
au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Bonsoir Magda.
Allô.
Oui Magda.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie, je suis très contente de vous parler. Et j'ai eu Nicolas juste avant, je lui ai un peu expliqué mon histoire parce qu'elle est assez vaste et assez lourde aussi. Donc je suis un peu émotionnée parce que c'est tellement. J'ai eu plusieurs vies dans ma vie, donc plusieurs pays, plusieurs langues.
Quelle richesse!
Oui. Ben oui, c'est une richesse.
Vous avez quel âge, Magda? Vous avez quel âge?
J'ai 76, là.
76 ans. Et vous vivez où actuellement?
Je vis en Touraine.
En Touraine, d'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes en Touraine?
Oui, ça fait 40 ans parce que je suis venue ici parce que j'ai épousé un Français qui habitait ici et dans la région. Et qui était à la SNCF, et j'ai eu deux enfants qui sont nés ici, et donc du coup, dès qu'ils ont été scolarisés, je me suis installée.